Bonsoir et bon début de semaine à tous. Le monde célèbre chaque 3 mai la journée mondiale de la liberté de la presse. Le thème choisi cette année est l'information comme bien public. L'UNESCO note que ce thème a pour objectif d'attirer l'attention sur le rôle particulier du journalisme dans la production d'informations vérifiées dans l'intérêt du public. Par ailleurs, l'UNESCO souligne que la journée mondiale de la liberté de la presse 2021 met en évidence 3 impératifs pour cet écosystème, à savoir des mesures pour assurer la viabilité économique des médias, des mécanismes pour assurer la transparence des sociétés Internet, le renforcement des capacités en matière d'éducation aux médias et à l'information, permettant au public de reconnaître et de valoriser, ainsi de défendre et d'exiger le journalisme en tant qu'élément essentiel de l'information comme bien public. Que vous inspire la célébration de cette journée de la presse? Que faut-il pour que l'information devienne effectivement un bien public et contribue à l'épanouissement de la société? Nous en parlons ce soir avec Patrick Mouyaya, ministre de l'Information et Médias et porte-parole du gouvernement. Monsieur le ministre, bonsoir.
Bonsoir Kelly, bonsoir à tous les auditeurs de Radio 4.
Professeur Emmanuel Kiabongo, professeur de journalisme à l'Université Pédagogique Nationale, UPEN en sigle, et membre du conseil de gouvernance de l'ONG Journaliste en danger, GED en sigle. Professeur Emmanuel Kiabongo, bonsoir.
Bonsoir cher ami.
Et Edmond Idzouba, qui est rédacteur en chef du média en ligne objectifinfo.cd, il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Mais vous, auditeurs des Radio Capi, vous êtes déjà très nombreux à nous suivre ce soir et à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Moïse Angui de Goma au Nord Kivu. L'information ne peut devenir bien publique si et seulement si tous les médias n'usent que du professionnalisme ainsi que de la neutralité dans les traitements et diffusion des différentes informations. François Okunji Lange, depuis Mweka au Kasaï, le constat est amer, la presse est instrumentalisée par les hommes politiques. Merci de nous suivre partout en RDC sous la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Radio Capi. Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
L'information comme bien public pour assurer la viabilité économique des médias d'information, c'est le thème retenu pour célébrer la journée mondiale de la presse ce lundi 3 mai. L'UNESCO note que ce thème a pour objectif d'attirer l'attention sur le rôle particulier du journalisme dans la production d'informations vérifiées dans l'intérêt du public. Paul Matendo nous en dit plus.
Ce message de l'UNESCO souligne que la Journée mondiale de la liberté de la presse 2021 met notamment en évidence 3 impératifs pour cet écosystème, à savoir des mesures pour assurer la viabilité économique des médias d'information, des mécanismes pour assurer la transparence des sociétés Internet et le renforcement des capacités en matière d'éducation aux médias et à l'information permettant au public de reconnaître et de valoriser ainsi que de défendre et d'exiger le journalisme en tant qu'élément essentiel de l'information comme bien public. Le thème de cette édition 2021 est d'une pertinence urgente pour tous les pays du monde, poursuit ce message. L'information est un droit de chaque individu, mais sa disponibilité, sa visibilité et sa reconnaissance sont une préoccupation commune. C'est pourquoi le 3 mai 2021 est l'occasion d'affirmer l'importance de chérir l'information comme un bien public et d'explorer ce qui peut être fait dans la production, la distribution et la réception des contenus pour renforcer le journalisme et pour faire progresser la transparence et l'autonomisation tout en ne laissant personne pour compte, conclut l'UNESCO.
Merci Paul Matendo. Patrick Mouyaya, je rappelle que vous êtes ministre de l'Information et Médias et porte-parole du gouvernement. Monsieur le ministre, la première question que j'ai envie de vous poser, que vous inspire la célébration de cette journée de la presse?
D'abord, c'est une célébration qui nous permet de nous asseoir et de faire le point de l'exercice de la liberté de la presse dans notre pays et dans tous les pays du monde. Parce que, comme vous le savez, la liberté d'expression, le droit d'être informé, c'est des choses qui sont garanties par la Constitution. Et donc, pour nous, en tant que pouvoir public, c'est aussi l'occasion de faire le point avec les différents partenaires à ce sujet faut regarder dans notre contexte où est-ce que nous en sommes, parce que lorsqu'on parle de la, dans les thèmes généraux, dans les thèmes mondiaux de l'information comme bien public, cela peut être compris comme le palais du peuple, comme un patrimoine que nous tous nous devons protéger, un patrimoine pour lequel nous devons travailler. Et donc, comme ministre de la communication des médias, c'est une journée qui tombe à point nommé parce que j'ai eu l'occasion tout à l'heure d'expliquer les grandes lignes de ce que nous nous comptons faire pour que nous puissions mettre le gouvernement au diapason de l'évolution de l'information de nos jours et pour que l'information publique puisse être toujours celle la bonne que nous partagerons pour que le Congolais sache effectivement ce que nous faisons comme gouvernement et qu'on voit dans quelle mesure on peut commencer à mieux orienter nos populations en leur donnant la bonne information.
Et qu'est-ce que vous proposez, monsieur le ministre, pour protéger ce patrimoine?
La question, elle est complexe, madame Kelly, parce que l'information, il ne s'agit pas seulement de l'information en elle-même, il s'agit des structures qui les produisent, donc les médias. Il s'agit des journalistes qui l'exercent, qui visent de la connaître du traitement de la diffusion de l'information. Et donc, nous, dans ce qu'on a prévu dans le cadre du programme du gouvernement, c'est d'abord de faire le parachèvement des lois, principalement la révision de la loi de 96, parce qu'elle est déjouée 25 ans plus tard. Il y a beaucoup de dispositions qui doivent être revues pour l'adapter à l'évolution, notamment l'existence aujourd'hui des médias en ligne, qui ne sont pas prises en charge par la loi. Il s'agit aussi de veiller à la loi sur l'accès à l'information qui a fait beaucoup de navettes à l'Assemblée pour avoir cette forme de transparence qui permet aux citoyens d'avoir les informations qu'ils veulent parce que vous savez, madame Kelly, le peuple est devenu très exigeant et nous devons arrimer les structures publiques à cette exigence avec la possibilité pour le peuple d'avoir toutes les informations quand ils veulent. Et c'est pour ça qu'il y a cette volonté d'ouverture et puis il y a cette obligation de rélevabilité qui s'incombe à nous. Ça veut dire que le gouvernement va mettre en place des structures qui permettent aux uns aux autres de s'informer à temps réel. C'est le cas du portail du gouvernement, des comptes, différents comptes Twitter. Nous sommes en train de réfléchir pour que nous puissions être en condition d'être le plus transparent possible, d'être non seulement le plus transparent, mais aussi de donner les meilleures informations et à temps pour permettre aux Congolais de se déterminer. Nous, le changement pour lequel nous nous sommes battus, nous voulons que dans les domaines qui est le mien, que ce changement puisse être réellement vécu.
Monsieur le ministre, plus de deux ans après l'accession au pouvoir du président Félix Tshisekedi, journalistes en danger constatent une recrudescence inquiétante d'attaques contre les journalistes et les médias. C'est le bilan que vous dressez aussi de la liberté de la presse en RDC?
Non, je n'irai pas dans ce sens-là, parce qu'il faut considérer que l'exercice de la liberté de la presse doit répondre aussi à un certain nombre de critères. Bon, c'est vrai qu'il y a des référencements qui se font par GED et toutes les organisations, mais je crois que le secrétaire général de GED a dit ce matin que la situation d'aujourd'hui n'est pas pire que celle d'hier. C'est pas des situations qui sont comparables. Mais l'idée ici, c'est de nous assurer que nous, en tant qu'autorité publique, on s'assure que les journalistes exercent leur métier dans la protection qu'ils font, mais ceci suppose aussi que le journaliste soit professionnel. C'est les meilleurs remparts et les meilleurs boucliers contre tous les cas de dérapage. Maintenant, nous sommes en train de réfléchir à mettre en place des plateformes qui nous permettront d'être à l'écoute des organisations professionnelles, de voir comment avec elles on va renforcer la régulation, l'autorégulation en amont pour éviter qu'il y ait des dérapages en aval. Je suis le porte-parole du gouvernement, je suis aussi le ministre de l'écoute et nous allons beaucoup écouter les professionnels de médias eux-mêmes dans leurs différentes organisations pour voir ensemble quelles structures on peut mettre en place d'une part pour protéger les journalistes et d'autre part pour extirper de la profession tout ce qu'on appelle moutons noirs qui sont malheureusement le plus souvent à la base de certains dérapages constatés et déplorés.
La situation d'aujourd'hui n'est pas comparable à celle d'hier, vous dites, mais depuis le début du quinquennat de Félix Tshisekedi, on a quand même enregistré 228 cas d'atteinte à la liberté de la presse. Et c'est quand même beaucoup.
Mais madame, vous savez, il faut regarder les contextes dans lesquels nous évoluons. Ici, ce que je voudrais vous dire, c'est que nous, comme gouvernement, nous allons nous assurer que ces domaines soient bien pris en charge, parce que le président de la République fait du respect des droits humains un point crucial dans l'action du gouvernement. Pour ce qui concerne la liberté de la presse, qui nous concerne dans mon département, vous allez considérer que nous avons commencé une nouvelle période. Nous ferons des efforts, j'ai dit que je ne ferai pas de promesses, mais nous ferons des efforts pour que ces cas se réduisent davantage. Et pour y arriver, ça signifie qu'en amont, nous avons des journalistes qui sont aussi professionnels et des structures, des régulations de la profession qui opèrent et qui s'assurent que les journalistes exercent leur métier dans le respect de la liberté et des autres lois de la République.
Le problème, monsieur le ministre, ce n'est pas seulement l'accès à l'information en RDC aujourd'hui, mais c'est aussi la viabilité économique des médias d'information.
La question de la viabilité, peut-être que vous n'avez pas terminé, excusez-moi de vous interrompre. La question de la viabilité des médias est liée au contexte dans lequel le pays évolue. Madame Kelly, ne nous cachons pas la face, le Congo est un pays pauvre. Et parce que nous sommes dans la pauvreté, cette pauvreté que nous vivons économiquement dans les autres secteurs se répercute aux médias. Elle est exacerbée par la sensibilité du métier du journaliste, parce que le journaliste, c'est celui qui informe les autres. Madame Kelly, si vous n'articuliez pas bien en français, les auditeurs de Capi auraient su, on aurait peut-être demandé d'être limogé. Ça dit la sensibilité et les degrés d'exposition qu'il y a dans l'exercice de ce métier. Et donc nous, aujourd'hui, l'idée, c'est de nous dire, nous allons travailler spécifiquement pour les questions des médias, mais pour les rendre plus viables économiquement, il y a un effort à faire au niveau général, parce que ceux qui achètent des journaux, c'est des Congolais. Ceux qui s'abonnent à des médias en ligne, c'est aussi des Congolais. Ils doivent avoir un pouvoir d'achat qui leur permet de faire des dépenses pour s'informer.
Merci, monsieur le ministre. On vous garde encore dans cette émission. Le temps de donner la parole au professeur Emmanuel Kiabongo, professeur de journalisme à l'Université pédagogique nationale UPN en sigle et membre du conseil de gouvernance de l'ONG Journalistes en danger, JED en sigle. Professeur Emmanuel Kiabongo, la journée du 3 mai vous inspire quoi?
Merci beaucoup, madame. Je voudrais, avant d'entrer dans le vif du sujet, vous dire que c'est un plaisir pour moi et un honneur de participer à cette émission avec notre ministre qui est aussi un journaliste professionnel et que nous connaissions comme un grand journaliste. Donc pour moi c'est un honneur et je pense que c'est un plaisir à partager. Ce que je voudrais dire est que il y a quelques années, Madame Kelly, quand JED ici publiait un communiqué des jours de d'une fête des médias, n'importe laquelle, après avoir publié le communiqué, on devait fermer les bureaux, enterrer les ordinateurs et se cacher dans la brousse. Aujourd'hui, si nous sommes capables de faire un communiqué, de discuter pendant la journée de la liberté de la presse, d'en parler, de fester quoi. Je pense que c'est une avancée très raisonnable.
Professeur Emmanuel, vous parlez d'avancée, mais entre-temps, dans votre communiqué, vous parlez de recrudescence inquiétante. Est-ce que c'est pas paradoxal?
Il n'y a pas de paradoxe. Peut-être c'est apparemment qu'il y a des paradoxes, mais ce n'est pas des paradoxes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où, il y a quelques années, quand on publiait un communiqué, c'était des journalistes qui avaient été assassinés, c'est des journalistes qui avaient été blessés par balles, c'est des journalistes qui avaient été gardés longtemps dans des prisons privées, c'est des journalistes qui avaient été longtemps gardés à Makala, tout ça. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas ces cas-là n'existent plus. Du moins depuis ces deux dernières années, ces cas-là n'existent plus.
C'est-à-dire il y a eu beaucoup de journalistes qui ont été interpellés, arrêtés, professeur Emmanuel Kiabongo.
C'est ce que j'ai dit. Dans notre nomenclature des entraves à la liberté de la presse, il y a d'abord les assassinats, le meurtre des journalistes, qui n'existe plus. Il y a des emprisonnements de très longue durée qui n'existent plus. Il y a ce qu'on appelle des tortures qui n'existent plus. Mais bien sûr, il y a des interpellations. Ça, c'est vrai que c'est un point qui reste sur lequel on doit parler.
Dans votre rapport, vous parlez des 9 journalistes agressés et torturés dans l'exercice de leur profession. Donc, ça existe toujours.
Oui, ce n'est plus comme hier, madame. La torture que nous avons connue, je ne défends pas une cause, mais la torture que nous avons connue, ce n'était pas ce que nous avons. Mais ce que nous disons est que les choses doivent s'améliorer. Et les choses doivent s'améliorer à 2 niveaux. Le premier niveau est qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons le bonheur d'avoir à la tête de notre ministère un journaliste professionnel. Aujourd'hui, nous avons quelqu'un avec qui nous parlons le même langage. Il sait ce que nous avons comme problème et il sait comment les résoudre et il sait ce que nous devons faire ensemble. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, JED, ce n'est pas une organisation qui a dit que tout, c'est l'État qui le fait, non. Nous considérons que d'une part et d'autre, il y a des choses à faire. D'abord en commentant par les journalistes eux-mêmes, et que nous devons vraiment réhabiliter mentalement, réhabiliter culturellement, réhabiliter intellectuellement. C'est pour cela que les JED organisent des formations. Mais de l'autre côté, nous disons, l'État, même ce qui a été prévu dans la loi qui existe, dans la loi sur l'exercice de la liberté de la presse, il existe des pans entiers où l'État dit qu'il doit faire, n'est-ce pas, des aides directes et des aides indirectes, où l'État donne le statut de journaliste, mais ça n'a jamais été d'application. Aujourd'hui, que nous avons comme ministre et professionnel, nous devons travailler là-dessus pour que cela puisse se faire.
Monsieur le ministre, il y a cet auditeur qui nous écrit depuis Bukavu, il s'appelle Ndiana Banzi Michel, à Kilimali. Il dit ceci, il faut de ne pas avoir notre propre budget, les journalistes, c'est libre au coupage, chose qui rend faible les journalistes, à part la RTNC qui dépend du gouvernement et qui malheureusement de peu mal parler du gouvernement. Elle va dans la ligne éditoriale du gouvernement. Nos autres radios communautaires, nous n'avons rien. Et d'autres radios appartiennent aux hommes politiques, chose qui limite certaines libertés d'expression. C'est le point de vue de cet auditeur. Apparemment, c'est un journaliste d'une radio communautaire. Pas d'appui du gouvernement aux radios communautaires.
La question, je viens d'arriver au ministère, vous savez qu'il y a... Le gouvernement a, à travers l'aide publique à la presse, la volonté de venir en aide aux médias. Mais cette volonté, pour qu'elle soit concrétisée, ça signifie en amont que les médias, les organisations des médias doivent s'organiser, parce que vous savez que le métier des journalistes aujourd'hui a été infiltré par des personnes qui ne sont pas attitrées. Je crois qu'il y a un travail de toilettage qui doit se faire, et d'ailleurs, un travail de toilettage qui a commencé parce qu'il y a eu les assises de Zombo, qui ont produit un document qui va nous servir bientôt. Dès que nous pourrons, nous organiserons les états généraux de la presse pour passer en revue tous ces sujets et voir dans quelle mesure l'État peut intervenir, aussi bien dans la protection des journalistes que dans la viabilisation des médias, aussi bien dans le traitement notamment avec les radios communautaires et tout le reste. Pour ce qui concerne par exemple les médias nationaux, parce qu'ils en parlent, notre idée, elle est simple, il faut moderniser la RTNC parce que c'est la maison mère, comme on aime à le dire, mais que par la suite, il faut réhabiliter le lien qui doit exister entre le Congolais et son média public. Je crois que c'est l'ambition que nous avons. J'ai l'avantage d'avoir été moi-même journaliste, nous connaissons les codes et nous allons voir dans quelle mesure nous pouvons mieux faire les choses, parce que les secteurs qui est les nôtres, c'est les secteurs qui permet que le pays soit attractif, notamment économiquement, pour que les investissements puissent arriver. Nous devons faire attention à tous les sujets pour que nous puissions être sûrs que nous apportons notre contribution dans les efforts du développement qui sont en cours.
Une autre réaction pour vous, monsieur le ministre, qui nous vient cette fois-ci de Goma. Est-ce que l'auditeur est en ligne? Voilà, on va prendre cette
question. Moïse Angui, depuis Goma, au nord Kivu. De prime abord, je trouve que c'est une immense occasion et un moment qui nécessairement vitalise ou du moins permet au monde entier d'encourager et de saluer le noble travail de ces pauvres journalistes, véritables acteurs du changement, canaux d'information, de formation et de divertissement de toute l'opinion. Au regard de ces lourds et précieux travaux de labeur, je trouve que jusque-là, ces agents publics demeurent parfois victimes des abus, notamment le manque d'une protection avérée et des conditions favorables de travail, notamment un salaire dérisoire. Je propose à ce que le service de l'État habilité réactive les efforts afin de parvenir à mettre l'organe de la presse dans ses droits et dans des conditions de travail propices. L'information ne peut devenir bien publique si et seulement si tout le média, tous les journalistes notamment, n'usent que du professionnalisme ainsi que de la neutralité dans les traitements et la diffusion de différentes informations.
Monsieur le ministre...
Bon, de toute façon, vous savez, nous sommes arrivés, j'ai dit je suis le ministre de la parole et de l'écoute. Je crois avoir écouté ce que notre ami a dit, et il y a des efforts que nous ferons pour arriver à avoir des médias qui sont conformes et qui répondent aux exigences de nos populations.
Professeur Emmanuel Kabongo, on va prendre aussi pour vous cet auditeur qui nous appelle depuis Mbandaka.
Junior Bompongo, à partir de la ville de Mbandaka, province de l'Équateur. La journée internationale de la presse est une journée que la RDC doit capitaliser aux pistes d'ouverture à la démocratie, car il est incontestablement prouvé que les médias aujourd'hui occupent la quatrième place de séparation du pouvoir. Étant donné qu'en RDC, les médias naissent comme des champignons et que la plupart d'entre eux appartiennent aux acteurs politiques, les différents médias congolais doivent fournir l'effort de servir à la population congolaise une information quantitative qui est qualitative. C'est à ce point que l'information deviendra effectivement un bien public et paricochera au processus du développement de la RDC, malgré que les médias aujourd'hui sont plus des cibles pour des régimes autocratiques. Pendant que une société démocratique a plus besoin d'une presse indépendante.
Professeur Emmanuel.
Oui, je suis content de cette expression de pluralisme médiatique et du pluralisme d'idées qui sort de notre correspondant. Et c'est bien que les hommes et les femmes, c'est-à-dire les Congolais, aient sur leurs médias leurs propres idées. Ça signifie qu'ils portent un intérêt. Et c'est parce qu'ils portent l'intérêt qu'ils peuvent toujours en discuter, comme il le dit là, avec beaucoup de pertinence. C'est vrai qu'à une période donnée, les médias congolais ont eu pour bailleurs de fonds des hommes politiques. Donc si aujourd'hui il y a une chose à faire, c'est vrai que c'est celle-là de voir comment on peut détacher ces médias de l'appartenance à des hommes politiques. C'est l'État qui donnait l'autorisation d'apparition des médias. Et c'est l'État qui savait que, voilà, on ne doit pas donner le monopole des médias à des hommes politiques. Donc c'est un problème qui va être résolu d'ici là, comme a dit le ministre. Nous aurons des états généraux de la presse. Comme vous le dites aussi, les médias sont dépendants des poches d'autrui. Donc nous estimons que pour la possibilité de leur viabilisation, il faudra que les médias deviennent des véritables entreprises, c'est-à-dire non pas des entreprises de personnes, non, mais des entreprises par action à responsabilité limitée, donc des SARL. Donc il faudra que chaque entreprise de médias puisse être capitalisée, qu'il dispose d'un certain nombre de biens, qu'on donne à ces biens un certain nombre de valeurs, qu'on puisse se mettre dire que ces biens valent combien et qu'on puisse, à partir de ces valeurs-là, produire des actions et que ces actions puissent être vendues, n'est-ce pas, à des gens, non pas à des hommes politiques, parce que par la loi, les hommes politiques ne peuvent pas faire le commerce, mais à des actionnaires venant du monde des affaires, à des actionnaires venant du monde de l'actionnariat, n'est-ce pas, non politique, et ainsi vont naître des entreprises de médias qui ont de l'argent, et parce qu'ils ont de l'argent, ils peuvent produire des véritables opinions. Donc je comprends que notre ami a tout à fait raison. Il faut détacher la relation causale entre les hommes politiques avec les médias. Les hommes politiques sont des acteurs politiques, sont des producteurs, n'est-ce pas, des événements politiques. Et nous ne sommes que des relationnels, c'est-à-dire nous faisons la relation, nous faisons des reportages, nous discutons, mais ils ne doivent pas entrer dans les systèmes-là. Je crois que c'est une erreur qui a été commise il y a longtemps et sur laquelle nous allons discuter au stade général de la presse, mais qui doit être réparée. Donc, comme je dis tout à l'heure, oui.
Alors, il y a un auditeur qui vient de nous écrire, qui vous pose à vous directement la question. Il écrit depuis Likasi, dans la province du Haut-Katanga. Il s'appelle Magie Somwe. Il demande à l'intervenant de GED si on peut parler réellement d'une presse indépendante en RDC.
On peut enlever le terme vraiment, mais dire qu'elle est indépendante, mais pas vraiment indépendante. C'est-à-dire, comme nous l'avons dit tout à l'heure, l'indépendance de la presse n'est pas seulement une indépendance financière, elle est aussi une indépendance des opérateurs de médias, des journalistes. Si les journalistes sont indépendants dans leur tête, si les journalistes n'ont rien à demander à des individus, si les journalistes sont formés pour être sûrs que leur rôle dans la société, c'est de rechercher l'information, de la traiter, de la diffuser, et pour que notre population puisse acquérir un niveau, n'est-ce pas, de compréhension, un niveau, n'est-ce pas, de participation démocratique élevé, alors la presse peut être indépendante. Mais vous me posez la question, comment est-ce qu'on peut être indépendant quand on est mal payé, ou sous-payé, ou jamais payé? Et c'est là aussi la question qui pose notre ami. Donc aujourd'hui, moi connaissant cette presse, je suis aussi journaliste professionnel, connaissant tout ce que nous connaissons comme problème, j'ai dit cette presse est indépendante, mais pas suffisamment.
Merci, c'est-à-dire
que oui, elle est indépendante, mais pas suffisamment. Les journalistes ici, quand il faudra quand même être, n'est-ce pas, de mauvaise part pour dire que chaque journaliste se réveille chaque matin, court chez un homme politique ou chez un homme d'affaires pour demander l'information. Non, ça n'existe pas. Le journaliste ici, malgré dans sa misère, est un homme toujours d'une grande liberté.
Je vous ai annoncé Edmond Izouba comme troisième invité dans ce débat. Malheureusement, nous n'arrivons pas à le joindre. À la place, nous avons Israël Moutchala, qui est président des médias en ligne en RDC et directeur du média en ligne 7sur7.cd. Israël Moutchala, l'information comme bien public, c'est le thème choisi cette année pour célébrer la journée mondiale de la liberté de la presse. Qu'est-ce que ça vous inspire?
Merci Kelly. Bon, moi ça m'inspire beaucoup de choses. La première chose d'abord, je pense qu'il faut qu'on élargisse le champ de l'information. J'épouse l'idée émise ce matin par le professeur Jean-Chrétien Ekambo, qui parle plutôt de information comme bien universel et non comme bien public, pour montrer justement que la portée de l'information est plus large et plus vaste, et que c'est un bien qui est inhérente à la nature humaine, c'est un droit de l'homme important qu'il faut protéger. Et donc moi aujourd'hui, ce thème m'inspire justement le fait que le producteur de ce bien universel qu'est l'information ont des obligations, mais aussi ont des droits, mais aussi des devoirs. Souvent, les producteurs de l'information publique, les journalistes que nous sommes, nous nous cramponnons, et c'est très bien de le faire, sur nos droits, en oubliant justement nos obligations, en oubliant nos devoirs. Et je pense que la journée d'aujourd'hui, c'est une journée où il faut absolument réhabiliter la prise en compte dans notre travail du code d'éthique et de déontologie, mais aussi la loi qui régit notre pays. Donc pour moi, je mets ce thème sous les deux casquettes de droit, mais aussi de responsabilité. L'un ne va pas sans l'autre. Donc ce sont les deux réalités d'une même médaille, pile et face, qui ne sont jamais indissociables et qui ne doivent pas être dissociées. Voilà à peu près, moi, je mets cette journée sur le thème de la responsabilité. Nous devons faire un effort pour un journalisme de qualité, mais à part ça, il y a tous ces problèmes d'accès aux sources d'information, il y a tous ces problèmes de l'efficacité de nos organes d'autorégulation et de régulation ensuite, mais aussi la question de la formation, la question de la viabilité économique, le fait que nous sommes dans un monde qui change, qui bouge, la numérisation de la société. Tout ça sont des thématiques, justement, que cette journée de la célébration de la presse nous a offerte pour nourrir la réflexion.
Pour terminer, là, ce sont des thématiques qui reviennent presque chaque année. Un journalisme de qualité, efficacité de nos organes de presse, formation des journalistes, ça revient chaque année, mais malheureusement, on a l'impression que malgré les séminaires qu'on organise, les formations à gauche, à droite, la situation n'évolue pas.
C'est vrai. Nous sommes une société en crise. Nous sommes une société malade et notre profession est le reflet de notre société, des maux qui rongent notre société. Et donc, à l'instar de la profession d'avocat, à l'instar de la profession de magistrat, à l'instar de la profession de professeur d'université, à l'instar de la profession des médecins, à l'instar de la profession de policier, à l'instar de la profession de militaire, à l'instar de tous les autres métiers, comme notamment aussi même les fonctionnaires de l'État, nous sommes tous, nous charrions les mêmes mots, les mots que charrie notre société. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas exiger une presse excellente dans une société en crise, dans une société où l'État est faible, où l'autorité de l'État est faible, dans une société où la famille est éclatée, dans une société où l'école ne joue pas son rôle, dans une société justement en manque de repères. Et donc, nous, en tant que presse, aussi, malheureusement, hélas, nous reflétons cet art-là. Mais nous ne résignons pas. Nous travaillons justement à corriger nos mots. Nous travaillons justement à corriger nos défauts. Voilà pourquoi nous avons été à Zongo pour essayer de réfléchir sur les pistes de solutions. Nous les avons articulées, nous avons ferrées, nous avons listé tous les problèmes et nous avons proposé des solutions. Et nous comptons beaucoup sur l'organisation des États généraux que nous voulons inclusive, sans complaisance, où face à l'État, face à nous-mêmes, face à la société civile, face aux consommateurs de l'information, nous allons justement appuyer là où ça fait mal, nous allons nommer un chat, nous allons balayer devant notre porte et ainsi envisager de manière sereine l'avenir.
Israël Moutala, que faut-il pour que l'information devienne effectivement un bien public et contribue à l'épanouissement de la société? C'est la deuxième partie de cette émission et nous allons commencer par vous. On va prendre d'abord cet auditeur qui nous appelle depuis Butembo dans la province du Nord Kivu.
Jonas Kambal depuis Butembo au Nord Kivu. Cette célébration prouve qu'il y a des organisations qui défendent les droits des journalistes dans l'exercice de leur métier. Cependant, il faudrait que le gouvernement place les journalistes dans des conditions qui leur permettront d'accepter que les journalistes prennent leurs responsabilités en main et ne pas avoir un penchant, d'où la neutralité. Et c'est mieux que la population ne répande pas des rumeurs, mais aussi des données aux professionnels des médias, la vraie version des faits, aux journalistes de peser l'impact de l'information dans la communauté.
Israël Moutala.
Bon, sur la question de l'État, je ne me fais pas beaucoup d'illusions. Moi, je suis journaliste économique, je ne me fais pas beaucoup d'illusions sur la santé financière du gouvernement. Je connais l'état de nos finances publiques, je connais les défis auxquels fait face l'État, les questions sécuritaires à l'Est, se battre sur les questions de pouvoir d'achat, se battre sur la délivrance des services publics pressants. Et donc, je ne vois pas l'État aider directement la presse. Mais là où nous pouvons justement espérer de l'État, c'est notamment au niveau des aides indirectes. Justement, moi, j'ai payé les impôts sur les bénéfices il y a 2 jours ou 3 jours, voilà. Mais j'ai payé ça comme un vendeur de meubles ou un vendeur de pétrole ou un vendeur de véhicules, alors que l'information a un caractère de service public. Et donc, on ne peut pas me taxer, moi, comme on taxerait quelqu'un qui vendrait des bijoux, quelqu'un qui vendrait des montres de luxe. Et donc, il y a des aberrations comme ça qu'il faut corriger. Voilà pourquoi nous appelons d'abord à l'application de ce que déjà prévoit comme droit pour les médias, pour les organes de presse. Donc, il y a une série de batteries, justement, que l'État peut mettre en œuvre pour assurer la liberté de la presse. À part ça, moi, les questions cruciales qui nous importent aussi, c'est la sécurité de journalistes. C'est vrai que la sécurité des journalistes, voilà, c'est une question qui est récurrente, mais là aussi, il faudra absolument sensibiliser les détenteurs de pouvoir, sensibiliser les agents de l'ordre pour que les gens se soient sécurisés, ne soient pas inquiétés dans son travail. Et que pour toutes les diffamations, pour toutes les imputations dommageables, pour toutes les fautes qu'ils commettraient, un démenti en bonne et due forme suffirait. Mais pour ça, il faudrait que les organes d'autorégulation de la presse, des gens, se fonctionnent. Sur la question de l'avenir.
Sur la question, excusez-moi Israël Moutala, sur la question de la protection des journalistes, on a subi le ministre Patrick Muyaya dire aux journalistes, si vous voulez que l'État vous protège, aidez l'État à vous protéger. C'est-à-dire
bon,
que...
Le ministre a parfaitement raison. Ça veut dire que justement, quand vous suivez, que ça soit GED, que vous suivez les autres organisations, notamment MILRDC, nous mettons un accent sur justement le respect du code d'éthique et des déontologies. C'est ça d'abord la base, le respect de la loi. Le respect de la loi. Donc ça veut dire qu'une bonne partie de la protection du journaliste, c'est de son propre chef. Donc ça veut dire qu'il a lui-même, quand il observe déjà à peu près le code d'éthique et des déontologies et la loi du pays, à 70%, il n'aura pas de problème. Mais c'est vrai qu'il y a parfois, si on a vu souvent en province, qu'il y a des gouverneurs qui ont une conception assez malaisée de notre démocratie et que il faudrait absolument que les pouvoirs publics puissent justement aider ces gouverneurs indélicats à laisser la presse faire son travail. Donc, sur la question de la sécurité, le ministre de la communication et des médias n'a pas tort. Il est dans son rôle, justement, de nous dire, voilà, pour que je vous aide, essayez, autant faire que se peut, de respecter d'abord votre propre loi, notre propre Bible. Parce que à un moment, nous-mêmes, nous ne respectons pas notre propre Bible, qui est le code éthique et de déontologie. Donc, c'est une sensibilisation, et parce qu'un journaliste qui observe ça et qui est pris, qui est arrêté, et le ministre aura beaucoup plus d'autorité pour le faire libérer et condamner le comportement d'une autorité publique qui, justement, menacerait ce journaliste qui lui intenterait des procès. Et donc, je pense que c'est un appel à la responsabilité.
Merci.
Ne nous voilons pas la face. Nous avons nous-mêmes des problèmes. Balayons d'abord devant notre propre porte. Enlevons d'abord la paille qui est dans notre œil avant de voir la poutre qui est dans notre œil avant de voir la paille qui est dans l'œil des autres.
Merci Israël Moutala. Monsieur le ministre Patrick Muyaya, qu'est-ce qu'il faut pour que l'information devienne effectivement un bien public et contribue à l'épanouissement de la société?
Ben, écoutez, nous, on va s'appeler l'information pour qu'il devienne un bien public, ça veut dire qu'il doit être disponible. Et l'information qui doit être disponible ici, c'est l'information qui a été traitée, c'est l'information qui est potable, c'est l'information qui permet aux journalistes de se déterminer. C'est l'information qui permet à ceux qui suivent le journaliste de savoir comment s'est comporté en société. Vous savez, Madame Kelly, nous, quand nous grandissions, les journalistes, on les appelait toujours Monsieur le journaliste. Je ne sais pas si ça existe encore de nos jours, mais cela voulait dire le respect qui est dû à ces personnes qui, matin et soir, se sacrifient pour que nous puissions être informés, bien disposés de nos vies et mieux comprendre la vie en société. Je crois que le travail du gouvernement, à travers mon ministère, c'est de nous assurer que les conditions soient réunies pour que les Congolais puissent toujours avoir cette information, la bonne et à tout moment.
Merci, Monsieur le ministre. On va considérer cela comme votre conclusion. Professeur
Merci
Emmanuel
beaucoup.
Kiabongo, qu'est-ce que vous proposez pour rendre l'information réellement un bien public?
Je pense qu'il y a deux modalités. Du côté de l'État, il faut dépénaliser, c'est-à-dire enlever cette épée de Damoclès qui est toujours sur la tête du journaliste chaque fois qu'il recherche et traite l'information, c'est-à-dire l'emprisonnement. Nous avons dit que le journaliste peut être puni, le journaliste peut commettre un délit, mais chaque fois que les médecins, les infirmiers commettent ces délits dans leur profession, ils ne sont pas mis en prison. Donc ce n'est pas nécessaire de mettre un journaliste en prison parce qu'il a commis un délit de presse, c'est-à-dire il a commis une faute par voie de la presse. Donc nous demandons à l'État de pénaliser. Et nous-mêmes, nous savons que ce qui est dépénalisable ici, ce sont des supputations dommageables, peut-être mais pas des discours de haine. Nous les savons nous-mêmes et que nous devons renforcer, n'est-ce pas, nos organes d'autorégulation. Deuxième point, c'est l'accès à l'information. Nous avons été heureux d'entendre le ministre dire que pour son mandat, il va s'articuler autour des droits d'accès à l'information. C'est-à-dire une possibilité qui est donnée à tout le monde d'accéder à l'information publique. L'information ne peut devenir publique que si elle est publiquement donnée. Vous n'allez pas faire une information publique dans votre chambre, non. C'est l'information qui est publique, qui est détenue par toutes les institutions publiques, qui est donnée publiquement aux journalistes, pour que les journalistes puissent la donner aussi publiquement aux lecteurs. Donc c'est le droit de l'information. Donc ça c'est du côté de l'État. Du côté des journalistes, nous devons renforcer nos organes d'autorégulation. Ce sont ces organes-là qui vont donner, à l'État la garantie que tout journaliste qui ferait un délit serait puni par ses pairs. Donc il y a ces conditions-là et je crois que ça fait partie. Et troisièmement, il faudra qu'à la fin du tout, que l'État, puisse réellement nous donner ces aides directes et indirectes. Nous savons que depuis quelques années, il y a toujours un petit budget de 2 millions de dollars qui tourne, qu'on ne donne pas aux journalistes, mais qui est prévu là pour l'aide aux médias, mais qui n'est jamais donné. Et nous allons nous organiser, nous les journalistes, pour en établir les conditions de possibilité des dons.
Merci, professeur Emmanuel Kiabongo, Israël Moutsalaïa, Albert Colombella, qui nous écrit depuis Kisangani, dans la province de la Tchopo, qui pense que cette journée, c'est une occasion pour interpeller les journalistes sur le respect de la déontologie journalistique. Malheureusement, le constat, dans notre pays, on a plus des radios privées où les patrons veulent à ce que les journalistes travaillent selon leur tendance politique ou religieuse. Comment vous répondez à cet auditeur? Ça sera votre conclusion.
Bon, je pense que on met trop l'accent sur des mauvais journalistes voilà. Mais d'abord, je veux saluer la qualité du travail effectué par la majorité des journalistes qui font un travail exceptionnel, un travail important. Et voilà. Beaucoup de gens évoquent la question du code d'éthique et de déontologie, mais soit ne l'ont pas lu, et même quand vous dites qu'une journaliste a commis une faute déontologique ou professionnelle, ils ne sont pas en mesure de démontrer ça. C'est vrai qu'il y a des journalistes qui dérapent, mais parfois il y a confusion entre des animateurs, entre des youtubeurs, entre des gens qui sont sur les réseaux sociaux et la qualité de journaliste. Pour être journaliste, il faut suivre une formation qui est rigoureuse, il faut détenir une carte de notre corporation, et donc il y a quand même de critères. Or, le métier n'est pas assez protégé, et tout le monde peut se lever un bon matin et s'autoproclamer journaliste. Donc c'est d'abord une question pour nous-mêmes de verrouiller ou de corser les conditions d'accès au journalisme, parce qu'il y a confusion entre journaliste et n'importe quel quidam.
Deuxièmement. Merci. Oui, rapidement, Israël.
Bon, rapidement, c'est que c'est vrai qu'il faut faire plus de sensibilisation sur l'observance du code d'éthique et des déontologies pour certains d'entre nous qui s'en exonèrent très facilement et ce n'est pas très bien.
Merci beaucoup Israël Moutsala, Dialogue en Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. Guy Maté, Dona Madimba sous la supervision de Martin Sabujangwe. Merci à Jean-Noël Mokondo qui était à la mise en onde. Présentation et coordination, Kéline Couté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.